Bonjour à toutes et à tous, 47e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Oui, un pec, deux pecs même.
C'est parfait. Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui.
Alors, pour ce 47e numéro,
je crois le que... Le 50e arrive bientôt,
ah,
ouais, t'as vu ça?
Ouais, j'ai
déjà,
pas fait
hein,
les calculs,
wow.
Mais oui, ça, je sais pas si ça sera...
Il va falloir prévoir un gâteau et des bougies, je sais
ah
pas.
Ah bah, tu t'en occupes
Oh bah, oh, écoute, tu pourrais payer le champagne quand même.
Ah, le champagne, je veux bien, mais pour bientôt...
Ah, d'accord, on verra.
Oui, pour cette émission, cette semaine, tu m'avais pas donné d'indice, hein, je crois, la dernière fois.
Non, c'était une surprise.
Alors, quelle surprise? Tu nous réserves.
Ah, mais alors grosse surprise. Je vais changer un petit peu de thématique. Mmh. Halloween n'était pas loin.
Oui.
Presque, tu vois, on aurait pu faire ça pour Halloween. Alors, en fait, pas la dernière chronique, mais l'avant-dernière, nous avons parlé de la très jolie petite ville d'Espalion.
Oui.
Avec notre chronique sur Joseph Vaillé.
Tout à fait, je me souviens très bien.
Vous pouvez retrouver un podcast.
Exactement.
Chers auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, nous retournons dans ce charmant coin de la vallée du Lot mmh. pour parler d'une grande affaire criminelle qui a plongé dans l'effroi les habitants de cette vallée que les journalistes ont surnommée pour l'occasion... La Vallée Rouge. Tu vois, on aurait
la
presque
Vallée
pu en parler
Rouge.
Pour Halloween.
Ouais.
Ben, rouge, le sang.
Ouais,
rouge.
Ouais. Alors, attends, tu parles de journaliste, donc c'est pas si ancien que ça.
Comme le journalisme, affaire. C'est vieux quand même.
Bah, ça, dépend.
Ça pourrait être, je sais pas, moi, enfin, le Moniteur français à la Révolution française, par exemple.
Oh,
Fualdès,
ouais.
Tu sais, c'est la première affaire criminelle.
Voilà.
Et pourtant, on est sous la Restauration. Hein,
ouais, mais bon, moi, 150 ans, c'est pas vieux.
Non, donc, non.
Ça date pas du Moyen-Âge, ton crime.
Non. C'est relativement proche. D'ailleurs, je pense qu'à l'évocation du nom de Vallée Rouge, les Espalionnais doivent encore trembler.
Ah bon?
Alors, en fait, ce sont pas moins de 8 meurtres.
Ah oui, quand même.
Qui seront commis entre. Tu vois, c'est très récent, entre 1947 et 1952.
Ah oui, juste à la sortie de la Seconde Guerre
juste
mondiale.
Juste à la sortie de la Seconde Guerre.
D'accord, voilà, bah dis donc, je suis pas au courant, moi.
Alors, j'ai encore mais va passer une soirée noire, tu vois, dans la vallée du Lot, et tu, après cette émission, on en reparle.
Donc un tueur en série à Espalion.
Tout à fait. Alors tout commence en 1947, tout juste 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mmh.
Comme l'ensemble des départements français, l'Aveyron a beaucoup souffert des privations, de l'occupation allemande et de l'absence des très nombreux prisonniers de guerre retenus en Allemagne.
Mmh.
Les rancunes sont grandes à la sortie de la guerre, hein, entre ceux qui ont choisi le camp de la résistance, ceux qui ont choisi la collaboration et même pour certains qui pourtant sont restés passifs, ce qui est
oui,
la majorité des gens.
Mmh.
De nombreuses personnes rêvent en secret de se venger et de punir aussi les traîtres, mais bon, sans forcément passer à l'action. Mais c'est pour dire que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il règne un climat
une ambiance
limite,
un peu bizarre.
Eh bien, tout à fait. En plus, les privations continuent. Les tickets de rationnement. Je donne un exemple.
Mmh. Jusqu'en 49, par là.
Ben voilà. On pense toujours que c'est allez 45, tout est fini, c'est la fête. Mmh. Voilà. Non, ça continue, y compris les privations, les carnets, les tickets de rationnement. Donc oui, c'est une période qui est relativement compliquée. Le 28 décembre 1947, la ferme du Roucanel, située entre Saint-Commodolt et Espalion, est en train de brûler.
Bon.
Les corps sans vie de Monsieur Brass, le fermier, et de sa servante sont retrouvés le lendemain.
Ouais.
Les gendarmes ne trouvent rien de spécial et concluent à un accident.
C'est des choses qui arrivent, notamment à la période de Noël, on fait un feu et puis tout brûle.
Tout à fait.
Okay.
Ils établissent que les deux occupants ont été asphyxiés par la fumée.
Mmh.
Voilà, pas de plaie apparente, pas de voilà, rien de spécial.
D'accord.
Mais en fait, 2 ans plus tard, cet incident refait surface à l'occasion d'une affaire similaire.
Pareil à la même époque de l'année ?
Le 25 mars 1949.
D'accord.
Mmh. Le moulin de Verrières entre Espalion et Estaing est en flammes.
Ah oui.
Les gendarmes retrouvent les corps du meunier Paul Pellegris et de sa femme. Cette fois, le meurtre est clairement établi.
Ah.
Et oui, parce que, en fait, leurs crânes ont été fracassés par un objet lourd et contondant.
Ah oui, c'est vrai que c'est louche.
C'est louche.
Ah, ça peut être une poutre qui tombe sur un mauvais endroit, mais bon.
Non, vu la disposition des
d'accord.
corps, les blessures, tu verras, on va en reparler de ces blessures juste après.
Ouais.
Non, c'est. Là, il y a meurtre. Il y a meurtre, mais le premier incident ou accident.
Ouais.
Avec les deux personnes qui brûlent, qui ont brûlé, sans plaie, hein, tu vois. Tu vois, c'est l'esprit gendarme, ça, c'est l'esprit enquêteur. On se dit, tiens, c'est vrai qu'il y a deux personnes qui ont brûlé il n'y a pas très longtemps,
ouais.
pas loin.
Mmh.
Donc, Tu sais, voilà, toutes les pistes sont bonnes à prendre. Voilà. Est-ce que c'est vraiment
le hasard,
un accident, ou plus, eh bien, ça fait partie justement du travail d'enquêteur. Mm-hmm. 2 ans plus tard, donc tu vois, il n'y a pas de suspect pour l'instant, ouais. L'enquête suit son cours, mais traîne un petit peu. 2 ans plus tard, le 12 août 1951, une petite ferme isolée au milieu des bois de Combes d'Ardennes, entre Espalion et Bozoul, est en train de brûler. Sa propriétaire, Madame Pratt, une veuve de 71 ans, est retrouvée morte par sa fille. Son crâne a été fracassé de la même manière que le meunier et sa femme.
Ouais, là, ça commence à devenir louche.
Ouais.
Là, ça commence vraiment à se dire, là, même sans être gendarme, tu peux te dire, attends, qu'est-ce qui se passe ?
Tout à fait.
Ok, il y a vraiment beaucoup de poutres.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais, puis au même endroit, le même genre de plaie, vraisemblablement fait avec le même outil. Ou objet, hein, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, là, c'est vraiment, il y a une corrélation.
C'est louche.
C'est même plus que louche.
C'est très louche.
Ouais. L'enquête piétine, toujours, jusqu'au moment où les gendarmes arrêtent un suspect. Il s'agit d'un nommé Édouard Capoulade. Mmh. Les interrogatoires sont tellement musclés que Capoulade...
Avoue tout.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Crac, et finit donc par tout avouer.
Oui, oui.
Il est jugé... Mais il est tout de suite relâché par manque de preuves. Et puis bon, voilà, oui. La justice a bien vu que bon, a priori, c'était pas lui le coupable.
Il était pour rien.
Ouais, on lui avait peut-être fait avouer.
Un petit peu forcé la main.
Voilà, tout à fait. Okay. Ce qui pouvait arriver.
Oui.
Je sais pas si ça arrive toujours, mais ça pouvait arriver.
Oh, j'espère pas.
Les crimes reprennent le lundi 18 février 1952.
Ouais.
La ferme de la Bessette à Bessuéjoul. Donc pareil, toujours dans la région d'Espalion, habité par monsieur Abel Morel, est incendié à son tour. Le corps du fermier est tiré hors de l'étable par un voisin. Ce dernier remarque à l'arrière du crâne de la victime la trace d'un bigot.
C'est quoi un bigot ?
Alors un bigot, c'est un petit piochon à deux dents qui est utilisé dans les vignes.
Ah les... oui, je vois. Enfin,
c'est le premier. Mmh. C'est un agriculteur. C'est le premier à constater que la plaie
correspond
à cet outil. Et les gendarmes, partant de cette piste, vont s'apercevoir que effectivement les autres corps, donc les 3 autres corps, portent exactement la même trace. Et donc vraisemblablement, c'est le même outil.
Voilà, une piste d'un travailleur dans les vignes aveyronnaises.
Il y en avait, tu sais, autrefois des vignes, il y en avait beaucoup.
Okay.
Ouais, surtout la vallée du Lot, il y en a encore d'ailleurs, le vin d'Entrailles par exemple, mais il y avait beaucoup plus de vignes à ce moment-là qu'à l'époque. Tu sais, chaque paysan avait son pied de vigne.
Ah ouais, il se faisait son...
Ah ouais, tout à fait.
Bah, oui.
On achetait peu de vin à l'époque, à la campagne on le faisait.
Ouais, ouais.
Alors, il était plus ou moins bon, mais...
Bah, surtout moins.
Ça faisait du bon vinaigre,
voilà.
Léonie, la femme d'Abel Morel, et leur fille Valérie sont également retrouvées mortes, mais elles, dans la maison.
D'accord.
Elles ont la même blessure à la tête. Les témoins sont auditionnés, les témoins de la scène. Beaucoup de gens sont venus pour essayer d'éteindre le feu, pour essayer de sortir les gens des flammes. Mmh. Donc, ils sont auditionnés par les gendarmes et plusieurs fermiers qui étaient venus spontanément donc, pour éteindre l'incendie attestent, en fait, des agissements un peu particuliers du plus proche voisin qui s'appelle Auguste Boudou.
Mmh.
Les témoins se souviennent qu'il avait refusé d'éteindre l'incendie.
Ouais.
Voilà.
Tu peux avoir peur d'aller te brûler.
Oui, il a peur de se brûler. Ou alors c'était vraiment pas son copain. Enfin, voilà.
Ouais.
Mais surtout qu'il était venu. Mmh. Finalement, il est venu que lorsque tout espoir de sauver la maison était perdu.
D'accord.
Donc ça éveille les soupçons.
Ouais, c'est pas.
Et puis apparemment, tous les témoins disent un peu la même chose.
Ouais.
Les gendarmes se présentent chez lui, mais Boudou se mure dans un grand silence. Mm-hmm. Voilà, il dit rien.
Il dit rien. C'est pas
il dit rien. Il dit absolument rien. 25 000 francs ont disparu de la famille Abel.
Ouais.
25 000 francs pour l'époque,
c'est une belle somme
énorme. Mm-hmm. Et l'enquête, en fait, rebondit quand les gendarmes apprennent que Boudou vient tout juste de solder un remboursement à sa banque d'une valeur de 30 000 francs.
Ouais, il y a une correspondance.
C'est un petit peu bizarre.
Mais c'est pas une preuve.
Non, mais c'est un petit peu bizarre.
Ouais.
Né en 1897, Auguste Boudou est un vétéran de la Grande Guerre de 14-18, où il était nettoyeur de tranchées.
C'est quoi ça, nettoyeur de tranchées ?
Un nettoyeur de tranchées, c'est on te donne un couteau, des espèces de massues avec des pointes, comme au Moyen-Âge, plein de choses, des revolvers, des pistolets. Et en fait, tu vas Tu rentres dans les tranchées ennemies, c'est opération commando, quoi. Tu rentres dans les tranchées ennemies.
Ah oui, c'est ça. C'est pas le mec qui balaie dans la tranchée.
Ah non, non. Nettoyeur de tranchée, ouais. Non, c'est pas pour faire les carreaux.
Okay.
Non, non, c'est vraiment pour. D'accord. Pour tuer, et là c'est le pire du pire, puisque on est c'est pas au fusil ou à la baïonnette, là c'est vraiment au corps à corps et face à face et les yeux dans les yeux, hein. Depuis son retour de la guerre, tout le monde l'avait trouvé changé.
Ah bah oui, j'imagine.
Aujourd'hui, tu vois, on parlerait de choc post-traumatique.
Mais oui, oui.
Mais à l'époque, on n'en parlait pas, puis il y aurait eu tellement de gens aussi à soigner.
Oh, il y en a eu plein déjà, il y en a eu, où c'était clair et net.
Tout à fait, ouais. Sans parler de grands bandits ou de criminels aussi, qui ont eu soif de sang. On leur a donné tellement de sang pendant la guerre de 14 que... à la fin de la guerre ou après la guerre, ils avaient besoin de sang, ils ont continué à assassiner. Là, ça serait un petit peu peut-être le cas. Après un interrogatoire musclé.
Encore.
Encore. Mais tu sais, à l'époque.
Ils étaient très, très musclés, les interrogatoires.
Oui, mais à l'époque, tu sais, c'était. Voilà, les choses étaient.
Ouais, c'était la méthode.
Étaient peut-être plus faciles. Ouais. De plus de 24 heures, il avoue les meurtres.
Ah, bah oui, mais ça veut rien dire. Parce que moi, tu me fais pareil, j'avoue.
Mais alors, le premier, tu vois, Capoulade, ça a été le cas.
Bah ouais, mais bon. Ouais.
Mais bon, cette fois, c'est lui.
Ah, on est sûr.
On est sûr.
Sûr.
Bah, tu vois, avec les 25 000 euros déjà, les 25 000 francs,
ouais,
pardon.
Ouais, non, mais c'est pas une preuve.
Non, mais des fois.
Non,
mais là, c'est sûr.
Ok.
Le procès se déroule du 19 au 21 juillet 1956, à l'issue duquel Auguste Boudou est condamné à mort.
Ah, bah oui, ça, oui.
Son avocat fait appel.
Oui.
4 mois plus tard, il est renvoyé devant la cour d'assises de Montpellier, où, après 3 jours de débat, la condamnation est confirmée.
Ah, oui, non.
Mais. Le président de la République, René Coty, commut sa peine de mort en travaux forcés à perpétuité.
Ouais.
Auguste Boudou est incarcéré. Alors, je ne sais pas trop où, parce que au cours de mes recherches, j'ai trouvé qu'il avait été incarcéré à la centrale de Cognac et dans certains textes que j'ai lus à la prison de Fresnes, à Paris.
Ouais. Et il y avait des travaux forcés dans ces prisons-là?
Aucune idée.
Ouais, ok, d'accord.
Mais est-ce qu'il a fait les deux?
Ouais. Ou un des deux?
Ou un des deux?
Ou aucun des deux?
ou parfois aucun des deux, oui. Je ne sais pas.
D'accord.
Il meurt derrière les barreaux en 1967 à l'âge de 70 ans.
Oui.
Cette histoire ne s'arrête pas là.
Ah bah oui, c'est bien ce que je me disais.
Et ouais. Les meurtres d'Auguste Boudou ont fait des émules.
Ah.
En 1953,
oui.
Un an tout juste après l'arrestation de Boudou,
oui.
Un jeune adolescent, toujours dans la vallée du Lot, âgé de 16 ans, tue son père, sa mère et son frère à coups de bigot.
Ah bah bravo.
Avant de mettre le feu à la maison familiale.
Eh bah c'était lui, le pauvre Boudou qui a fait de la prison pour rien. C'était le jeune.
A priori non.
Ah bah a priori non. Relancer l'enquête.
En fait, le jeune garçon n'a jamais réussi à s'expliquer de son geste.
Ouais.
Voilà, on pense qu'il y a eu un coup de folie ou.
Bah moi je te dis, là il y a, je sais plus c'est quoi, mais il faudrait faire un fait entrer l'accusé là-dessus ou un appel à témoins, je sais pas quoi.
Parce que les témoins ça fait longtemps.
Oui, ça fait longtemps. Mais je serais pas étonné que ce minot, il soit responsable de toute la série, que le pauvre Boudou, il a rien fait du tout.
Pourquoi pas?
Je sais pas.
Pourquoi pas?
Je sais pas.
Ou alors que l'un ait profité du crime de l'autre.
Ça arrive.
Je sais pas.
Ça peut arriver.
Et là, comment on appelle ça déjà? Un copycat.
Ouais, un copycat. Ouais, tout à fait. Ouais.
Cette affaire a notamment fait la une donc de plein de journaux, mais notamment du célèbre journal Le Détective.
Oh oui.
Très très célèbre. Mmh. On ne compte pas moins de 5 livres sur le sujet. Mmh. En 2016, une pièce de théâtre amateur intitulée Crime à l'ancienne ou Le tueur au bigot s'est jouée à Sainte-Afrique. Et en 2018, un documentaire a également été réalisé et intitulé La Vallée Rouge, par le fer et par le feu. Cette histoire a hanté pendant très longtemps la région d'Espalion, et beaucoup s'en souviennent encore. Et en fait, je pense que, tu vois, on a dû se servir de cette histoire pour calmer un petit peu les enfants passage, en leur disant, tu sais, c'est pas le père Fouettard, là, c'est le tueur au bigot, si t'es passage, le tueur au bigot va venir te chercher.
Tout ce
que je sais, c'est que, autrefois, tu sais, on laissait les portes des maisons ouvertes.
Oui.
On ferme à clé depuis très peu de temps.
Et encore.
Et encore dans certains coins. Mais je peux te dire que dans la vallée d'Espalion,
il y a des bonnes serrures.
Apparemment, tout était barricadé et les hommes dormaient avec le fusil au pied du lit.
À portée de main.
Le fusil chargé au pied du lit. Voilà.
Et bah, tu vois, moi, merci beaucoup pour tout ce partage d'informations, encore une fois, Vincent, et cette terrible affaire. Du côté d'Espalion et ses alentours, mais moi j'ai quand même, ça te dirait pas de relancer l'enquête? Moi, ce petit jeune, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser et que le pauvre Boudou, ça se trouve, faudrait le réhabiliter.
Pourquoi pas?
Non, pourquoi ça t'a pas l'air chaud.
Ben moi, c'est pas trop mon job, mais, ouais. Mais pourquoi pas si quelqu'un veut... Non, mais c'est une bonne idée, pourquoi pas.
Il y aura un film à faire, il y a une enquête à refaire.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Après, si ça se trouve, les éléments d'enquête précis font qu'il n'y a aucun doute, machin, j'en sais rien. Mais ouais. Là, l'histoire du petit jeune qui fait la même chose.
Oui, tu vois, c'est curieux. Ouais, c'est curieux, ça met le doute. Ouais. Surtout que c'est juste un an après.
Eh oui.
C'est pas des décennies.
Voilà, c'est pas. Et le boudou en question, pendant son procès, je sais pas si t'as retrouvé des éléments, mais il avait clamé son innocence ou.
Ça, j'ai pas vu, ouais. Apparemment, tu vois, ça a été jugé deux fois et les deux fois.
Ouais, mais tu sais, jugement, des fois, on est
c'est
coupable,
vrai.
Hop,
c'est vrai.
On s'emmerde pas trop, hein, surtout à l'époque, enfin, peut-être, parfois.
C'était peut-être déjà cousu de fil blanc.
Je sais pas. Bon, bah, c'est super intéressant tout ça encore, Vincent, merci beaucoup.
Ben, de rien.
Le bigot, j'aurais appris ce que c'est aujourd'hui, puis cette terrible affaire est du côté d'Espalion.
Et alors, on va continuer.
Ah bon?
Et oui, puisque, en fait, dans 15 jours,
oui.
Nous allons rester à la même époque et dans le même secteur. Pour parler de notre homme qui a également traumatisé cette belle vallée d'Espalion, ses contemporains l'ont baptisé le Masque Rouge. Ouais. Mais
oui.
Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui.
Bon,
on verra ça dans 15 jours.
Bah vivement dans 15 jours. Merci beaucoup, Vincent.
Ben merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.